Bonjour à tous, c'est Popcorn et c'est la 25e émission de la saison. Bonjour à tous, c'est Popcorn, c'est la 25e émission et je suis aujourd'hui en compagnie de Chloé, bonjour Chloé.
Bonjour.
De Quentin, bonjour Quentin.
Salut.
De Clément, bonjour Clément.
Salut.
Et de Maxence, bonjour Maxence.
Bonjour.
Pour nous parler donc ce soir de 4 films, d'un côté les films, les réminiscences on va dire du Festival de Cannes puisqu'il n'en reste plus beaucoup qui n'ont pas été distribués en salle, donc qui sont AV, le film bulgare ainsi que Les Vieux Chats donc de Sébastien Silva. Également on parlera de The Avengers, donc le blockbuster de la semaine qui réunit l'ensemble des héros Marvel sous la même bannière. Et enfin Tyrannosaure, donc le film qui a raflé toutes les récompenses au dernier festival de Sundance. On va tout de suite commencer par le trailer de The Avengers pour vous donner une petite mise en bouche et parler ensuite du film. You were made to be ruled. In the end, it'll be every man for himself.
What do?
We get ready.
Voilà, c'était donc la bande-annonce de The Avengers, donc le blockbuster qui réunit tous les héros Marvel, de Iron Man à Hulk, en passant bien entendu par Captain America. Chloé, est-ce que donc cette réunion de super-héros a réussi à t'émouvoir et à te plaire, puisque il faut dire que le réalisateur est Joss Whedon, qui a à son actif notamment la création de la série Buffy contre les vampires, ou encore Angel avec le regretté David Boreanaz.
Alors, je savais que tu ne manquerais pas de bien étaler le CV de Joss Whedon qui fait assez peur, mais en l'occurrence, son film est franchement réussi, enfin, du point de vue de la réalisation en elle-même ou de tout ce qui peut être, enfin, captation de la lumière ou alors travail sur la photo, il n'y en a pas, c'est pas ce qu'on attend d'un film de super-héros et d'un blockbuster. En l'occurrence, tous les critères et tout ce qui fait le succès et la substance et l'essence d'un blockbuster y est. Je ne suis pas très familière de l'univers Marvel, mais j'ai vraiment ressenti qu'il y avait déjà un côté kitsch qui était complètement assumé, notamment avec Captain America, qui se glisse un peu dans la peau d'un oncle Sam moderne, parce qu'on reprend vraiment tous les mythes et la mythologie américaine. Et j'ai trouvé que justement, ce film de super-héros assumait le côté très désuet que certains héros peuvent avoir. Donc c'est le cas par exemple de Captain America. Il y a aussi une très forte dose d'humour et elle est assez bien maniée et elle est assez bien œuvrée. Parce qu'en général, l'humour un peu gras, qui est parfois borderline sentimental quand il s'agit d'une fille avec de jolies formes, tel qu'est le rôle de la veuve noire de Scarlett Johansson. En général, cet humour-là, il tombe très vite à plat. Mais en l'occurrence, il est assez pertinent. Il s'intègre assez bien, par exemple, dans des scènes de combat ou dans des scènes un peu de tension où on pense qu'on arrive à l'acmé de l'action. Et en l'occurrence, je trouve que cet humour-là est un vrai ressort qui marche très, très bien et qu'on n'avait pas assez bien utilisé, assez bien travaillé dans les autres films de super héros à mon sens. Il faut dire aussi qu'on a quand même un étalage de toutes les capacités, de tous les super pouvoirs, de toute la destruction que peuvent amener les héros de Marvel. Donc moi qui avais par exemple jamais très bien compris quel était le principe de Thor quand même, parce que non mais enfin c'est comme si tu faisais de Monsieur Bricolage un super héros. Si le mec se promène avec un marteau et il fait de la foudre. Enfin j'avais absolument jamais compris le principe et l'utilité de ce super héros. Et en l'occurrence, il me semble qu'on arrive assez bien à utiliser ce qu'il peut y avoir de ridicule, en fait, à voir un mec, une sorte de Cro-Magnon qui se trimballe avec son marteau un peu partout. Et on jette là-dessus une petite dose de Frères Ennemis à la Abel et Caïn. Et moi, je trouve que ça réussit vraiment, ça pimente le truc. On tombe pas dans les gros traits du film de super-héros qui doit aller sauver la nana, sa nana, la nana de l'autre, enfin... Donc là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un film qui s'assumait, qui allait jusqu'au bout, qui n'hésitait pas à exploiter les personnalités, certes grossières, mais parfois enfin, habilement ridicules des super-héros en eux-mêmes. Donc ça reste un vrai succès, jubilatoire. On voit franchement pas le temps passer, parce que même si les scènes de combat sont sur le papier interminables, elles sont très bien menées, et c'est un excellent moment.
Voilà, donc on va passer à Quentin et on va voir s'il a été aussi émoustillé par le personnage de Thor.
Oui, par celui de Thor surtout, qui ressemble à un chanteur des années 80, c'est absolument fantastique. Non, c'est un film donc, qui est oui, effectivement très réussi. Alors je ne sais pas si on peut parler de personnalités qui sont exploitées, mais oui, des caractéristiques. Et pour le coup, il joue avec les caractéristiques de tous les héros qu'il y a, donc notamment des deux principaux et qui sont le duo un peu qui, ont un mec qui enlève le truc, qui sont Robert Downey Jr., donc Iron Man, et Captain America. Et c'est vrai que, bon, comme tu l'as dit, Captain America, c'est notamment celui sur lequel les blagues sont peut-être les plus drôles, parce que c'est vraiment, pour le coup, on se moque de ce qu'étaient les films du super-héros jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ce qui est intéressant avec ce film, c'est bon, de le voir tout seul, c'était un très bon moment, mais en fait, c'est de se dire que c'est peut-être une nouvelle version des films de super-héros, on va dire version, ça va être les années 2010, parce qu'on a eu trois pendant 10 ans, en fait. Alors, ça pouvait être très bien, mais il y a beaucoup, beaucoup de films de super-héros qui étaient en tout cas plus psychologique ou qui se voulait psychologique. Ça veut dire qu'il y avait toute une dimension avec le côté anti-héros, le héros qui ne s'assume pas, ou même des méchants qui étaient beaucoup plus travaillés, donc bon, du premier Spider-Man en gros au Chevalier Noir. Et en fait, on arrive là, on change totalement d'univers, ou alors le côté psychologique qui est abandonné et c'est bourrin au possible. C'est vraiment l'important pour tous, effectivement, c'est pratiquement c'est qui tape le plus fort, hein, de Thor à Hulk, enfin c'est le même combat. Et par contre, la grande force, c'est que voilà, c'est on ne se prend plus du tout au sérieux, mais on l'assume. Ça veut dire que après les films de super-héros qui étaient patriotiques, après les films de super-héros qui étaient peut-être qui se voulaient donc plus psychologiques, là on a le film de super-héros qui se prend pas au sérieux et qui veut faire rire.
Juste, enfin, moi je trouve qu'il y a une très très forte dimension patriote et patriotique dans ce film, et c'est aussi ce qui m'a vraiment frappée. C'est-à-dire qu'on est en train de nous resservir aussi toute la mythologie américaine, notamment évidemment avec Captain America.
Mais c'est pas justement caricatural, parce que dans le dernier Captain America, effectivement, on avait déjà cette dimension très présente, et là, est-ce que là c'est pas justement une caricature?
C'est très difficile à mesurer, parce qu'on joue vraiment, enfin, on est sur la ligne de la parodie à chaque fois. C'est-à-dire que t'as Captain America qui va te rappeler quand j'étais en Allemagne, je me suis engueulée avec un mec, ça a mal fini. Ok. Et donc, enfin, en l'occurrence, t'as vraiment tout ce truc, enfin, des Américains gendarmes, des Américains qui sont vraiment au centre et au cœur du monde. C'est-à-dire que si, en l'occurrence, la bataille finale se situe à Manhattan, qui détruisent avec un brio incroyable, c'est quand même pas un hasard. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un vrai retour un peu sur les valeurs américaines, c'est-à-dire tout ce qui est fraternité, esprit d'équipe, on le fait pour notre patrie. Et Captain America, c'est vraiment la résurgence, c'est le symbole, la mascotte et l'oncle Sam,
oui,
en fait.
Mais alors là, ce serait plus alors un patriotisme décomplexé, quoi, totalement décomplexé, donc il s'assume totalement, quitte à justement accepter de se moquer de lui-même et à rire de ce qu'il est.
Voilà, donc après ce débat fructueux et assez consensuel au final sur Avengers, donc le blockbuster de la semaine, on va cette fois passer à un autre film qui était en sélection officielle, donc à la CID, et c'est Les Vieux Chats, donc Bieros Gatos de Sébastien Silva, dont on vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce.
Se habrá muerto la Dominga.
¿Sí?
Enrique, ¿está mi mamá?
¿Murió?
Peor, tu hija.
Llegando a Perú, ¿se acuerda que fue a Perú, no? Oiga, mire, ¿por qué mejor no voy a su casa? Le muestro las fotos y ahí le cuento toda la aventura.
Hoy mismo.
Sí, pues mamá, hoy mismo.
Voilà, donc c'est les retrouvailles entre une mère et sa fille après un voyage, une mère de 70 ans et donc sa fille qui a plutôt 45 ans, Est-ce que Clément, tu peux me dire si, si ce nouveau film latino et ce nouveau film chilien surtout t'a convaincu?
Bah effectivement oui, ça m'a vraiment convaincu après avoir vu La Nana, qui était restée une assez grosse déception quand même sur le travail de Sébastien Silva. Là j'ai vraiment été très agréablement surpris par ce film, donc comme tu l'as dit, qui raconte l'histoire dans une première partie de la routine de ce vieux couple qui commence progressivement à disparaître sous l'effet tout simplement du vieillissement, surtout du personnage principal de la grand-mère, enfin de la mère
Isidora, de son prénom.
Isidora. Voilà, donc qui est admirablement bien joué. Enfin, c'est une performance d'actrice absolument exceptionnelle, surtout sur la deuxième partie du film, sur la fin. Et puis c'est surtout l'histoire de ses retrouvailles avec sa fille qui commence sur un ton humoristique que moi j'ai vraiment adoré, sur cette espèce de personnage totalement roots de sa fille qui débarque du Pérou, donc avec des savonnettes, avec sa copine, donc qui doit effectivement, enfin qui exige de se faire appeler Hugo et non par son prénom féminin. Et voilà, qui sniffe de la coke dans les toilettes et s'emporte à la moindre contestation, au moindre reproche de sa propre mère. Moi j'ai trouvé ce personnage absolument génial, qui me rappelait notamment celui de Janice dans la série des Sopranos, donc qui était la sœur de Tony Soprano, tout aussi rousse, qui revenait sans cesse de voyage et voulait là aussi évidemment récupérer l'appartement, enfin, ou la maison là, de la grand-mère. Donc vraiment la première partie du film est très très bien, puis progressivement on glisse vraiment dans l'émotion, avec notamment cette vision d'espèce de d'acteurs déguisés en abeilles le long d'un parc. Vraiment, je crois que ça a été... Il y a des scènes très très marquantes, celle-ci, la plus longue aussi, descente d'escalier probablement, que j'ai jamais vue au cinéma, enfin en tout cas la plus stressante. Donc vraiment, pour moi, ça reste une très très bonne surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir ce film, qui est en plus pas une très très bonne distribution, si j'ai bien compris.
Voilà, on va passer à l'avis de Chloé, on va voir si tu es aussi enchanté, on va dire, par le film de Silva.
Oui, assez, parce que j'ai trouvé que on assumait d'entrée de jeu un humour extrêmement grinçant et cruel aussi, que ce soit enfin par rapport au personnage central d'Isidora en elle-même, qui est tout simplement enfin confrontée, parce que non seulement un écart générationnel enfin qui est normal et qui est basique à sa fille, mais aussi à tout ce qu'il y a eu de blessures affectives avec elle, et moi par contre j'ai pas trouvé vraiment que le mélodrame arrivait, c'est-à-dire que j'ai trouvé que l'onirisme arrivait vraiment pendant cette deuxième partie du film, où en gros on sent que cette vieille dame commence à divaguer, mais justement moi j'ai pas senti vraiment un mental qui était en train de s'effriter, mais plutôt une glissée vers une sorte de rêve dans lequel elle se laisse emporter, alors que tout le monde reste extrêmement terre à terre et figé sur des choses extrêmement triviales. J'ai beaucoup aimé, parce qu'au final il y a une vraie coupure en fait au milieu du film. On passe d'un huis clos où l'atmosphère est vraiment étouffante, où on sent que les tempéraments commencent à s'échauffer, à cette deuxième partie de retrouvailles, et entre-temps, comme tu l'as dit, il y a cette descente d'escalier, et jamais je n'aurais cru être autant cramponnée à mon fauteuil face à une descente d'escalier. Et je pense que ça marque vraiment le coup de génie de ce film, parce qu'au final, on n'a pas vraiment... On n'est pas extrêmement attaché au personnage d'Isidora, qui est certes attachante. Pourquoi ? Parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est faible, mais qu'on a du mal aussi à apprécier, parce qu'on sent très bien que c'est une personnalité très dure, très ferme, qui a été très...
Et dont les valeurs sont très opposées aux nôtres également, la manière dont elle accepte par exemple l'homosexualité de sa fille.
Oui, mais en même temps, ce que j'ai trouvé assez ambigu, c'est qu'elle-même, elle s'est remariée, si tu veux. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait cette chose qui était un peu à cheval, où d'une personne comme Isidora, qui est pas tellement homophobe, mais enfin qui serait peut-être pas homophobe, mais qui aimerait pas que sa fille soit homosexuelle. C'est cette tranche de personne un peu grise, mais qui elle-même s'est remariée, donc elle est pas complètement rétrograde, elle est pas enfermée dans des valeurs trop archaïques pour qu'on puisse pas s'identifier à elle. Mais au final, on a du mal à être en complète empathie avec elle, alors que pourtant on la voit descendre ces escaliers, on est vraiment on est vraiment elle et on a peur pour elle. Et et en l'occurrence, j'ai trouvé ça assez assez bien joué, que au final le spectateur ne soit pas entraîné à prendre un parti contre l'autre, puisque c'est exactement ce qui se passe, et qu'on se retrouve juste face face à cette sorte de huis clos qui se transpose en un huis clos extérieur, ce qui est quand même très fort. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un vrai coup de génie, et je salue aussi la performance des quatre acteurs et actrices qui ont été vraiment formidables.
Non, puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, on ressent pas énormément d'empathie pour Isidora, et au contraire, là où je pense que le réalisateur a vraiment réussi son coup, c'est qu'au départ, la première arrivée de la fille est d'un côté jubilatoire, parce que très très drôle, mais de l'autre côté, on se prend d'emblée à la détester. C'est vraiment celle qui veut arnaquer absolument sa mère, et progressivement, le regard change en fait sur... à mesure que le regard de la mère change aussi sur sa propre fille. Et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est en partie toute l'ambiguïté de ce personnage. Et puis effectivement, pour ajouter sur les personnages secondaires, entre le frère, donc beaucoup plus âgé, qui vient essayer de réconcilier, qui apparaît 5 minutes, mais c'est absolument hilarant, et puis ce personnage d'Hugo, donc, qui est absolument génial. C'est un peu cliché, la lesbienne au grand cœur, mais c'était vraiment très 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 très, très drôle aussi.
Mais je pense qu'effectivement l'empathie, c'est absolument pas le mot qui conviendrait, puisqu'on peut pas ressentir tout d'empathie, ce serait de la pitié ou de la compassion, en fait. Ça dépend des moments et ça dépend vers qui. Pour Isidora, si, ça peut être toujours dans cette famille qui se déchire, et on peut par moments se demander effectivement ce qu'on ressent. Alors on ressent de l'émotion, mais on la ressent pas toujours forcément. Elle vient de l'action. Les personnages en eux-mêmes, on s'en moque un peu. C'est pas sur leur personnalité, effectivement, comme tu l'as dit, et parce qu'ils sont... Tout simplement, je trouve que c'est comme c'est un vrai drame social, les personnages sont très laids, en fait. Enfin, ils sont extrêmement laids, mais j'ai l'impression que, justement, c'est comme si on allait, le réalisateur, en les filmant, avait choisi aussi à les enlaidir pour montrer ce que... Enfin, ils montrent quand même, c'est très très sombre, le propos qui tient dedans aussi. C'est toujours un propos quand même où la mère et la fille se déchirent. Et pour moi, justement, la fin est un peu ambiguë, et pas forcément du même niveau que le reste du film, parce que la fin... s'accorde pour moi pas très bien, je vais pas la dévoiler, mais s'accorde pas très bien avec le reste. Et pour moi, ces personnages très laids, ça marque bien l'envie du réalisateur, qui c'est vraiment un propos sans concession, mais voilà, avec un véritable drame social. Mais j'ai l'impression qu'au lieu de l'inclure, ce drame, dans un conte ou dans une espèce d'histoire, en fait, c'est comme s'il avait cherché vraiment, pour le plus de réalisme possible, à poser sa caméra. C'est, il arrive dans l'appart, il se pose, lui, avec sa caméra, et il filme. Alors que ce soit absurde ou pas, et que ce soit drôle et grinçant, effectivement, mais qu'il ne cherche absolument pas à rajouter une histoire par-dessus. Alors, objectivement, c'est très bien. Après, c'est vrai que ça peut aussi... gêner un petit peu en quelque sorte, et empêcher d'accrocher, parce qu'effectivement on part un manque d'empathie totale qui n'est pas du tout créé, ou qu'on n'a pas de volonté de créer dans le scénario.
Oui, alors moi je suis d'accord avec toi, en fait, Quentin, mais je suis d'accord avec toi si j'avais vu les 15 premières minutes du film. C'est-à-dire que je trouve les 15 premières minutes de la scène d'exposition où on présente effectivement ces deux personnages, on fait une immersion dans le quotidien. J'avais très très peur, parce que je me suis dit, oula, attention, gros drame social. On voit effectivement une partie de sa folie. Et c'est fait de manière très didactique et très lisible, c'est-à-dire qu'on voit vraiment elle est folle, la pauvre, etc. Et je me dis, oh là là, être empreint de compassion et de pitié pour cette vieille dame un peu acariâtre, ça va m'énerver tout de suite. Et je trouve que pas du tout. Je trouve que, comme l'a dit Chloé très justement, sa maladie est pas tant un aveu de faiblesse qu'une sorte de parenthèse poétique dans le film, c'est-à-dire que ses absences, c'est des moments où elle part ailleurs. D'ailleurs, il y a des choses très drôles, notamment cette scène avec les abeilles que je vais pas dévoiler, mais au moment où elle pense qu'elle voit ailleurs, en fait, elle part dans la réalité, ce qui est quelque chose d'assez beau quand elle est sur son balcon. Et je trouve que justement il n'y a pas de pitié ou de compassion, il y a vraiment de l'empathie, parce que sa maladie n'est jamais vue comme une faiblesse. On la voit jamais rompre ou céder, ou quand on la voit céder, c'est par sa propre volonté. Et c'est ce que je trouve assez beau dans le film, c'est-à-dire que c'est son personnage qui est comme ça.
Mais juste donc pour dire, pour l'empathie, c'est l'action qui crée l'empathie, c'est pas les personnages en eux-mêmes. Ça veut dire que la scène va créer l'émotion et l'empathie, mais pas le personnage en soi. Le personnage en soi, on ressent rien pour lui vraiment. C'est le fait que au moment où elle part ailleurs, ou au moment où elle descend l'escalier dont on a parlé, c'est l'action, et c'est ce fait justement, c'est ces moments-là qui créent l'empathie. Le personnage en lui-même ne le fait pas.
Mais je trouve qu'on ressent pas de pitié jamais pour le personnage. Je trouve que c'est un personnage digne, un personnage fort, et c'est un vrai personnage de. C'est une personne âgée, comme on en voit rarement au cinéma. C'est une personne âgée forte. Et j'aime beaucoup le côté huis clos du film. Il y avait également ça dans La Nana, le côté huis clos ou quasi huis clos. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu par moment à Carnage, cette situation où effectivement deux personnes sont liguées et deux personnes s'opposent. Et il n'y a pas exactement les mêmes mécanismes.
Oui, mais il y avait peut-être le côté un peu modérateur justement de Hugo qui venait calmer le jeu, qui était là plus que bienvenu quand même.
Ouais, mais en même temps, j'ai trouvé que Hugo, à l'instar de tous les personnages de ce film, ne rentre jamais dans la caricature. C'est-à-dire que la lesbienne au grand cœur, ben justement, elle ne l'est pas tellement parce qu'elle est quand même là pour le contrat. Elle va quand même aller chercher sa coke et tout ça. Donc,
oui, mais
elle
prend qu'une dose. Et puis, enfin, non, mais
ouais.
C'est des petits détails comme ça qui font que tu dis. Enfin, c'est d'elle que va venir, entre guillemets, que vont venir certains déclics ou certains éléments aussi.
Oui, mais je sais pas. Enfin, j'ai trouvé que on pouvait, enfin, que ces personnages étaient absolument des électrons libres comme on en voit rarement devant une caméra. Ou en l'occurrence, il y a pas vraiment le cliché de la vieille dame aigrie, le Enrique qui a l'air tout gentil au début, il commence à nous taper sur le système aussi un peu vite. Et j'ai trouvé que justement cet ensemble de personnalités qui étaient très malléables et très volatiles en fait, comme elles le sont dans la réalité, était assez bien amené et n'encombrait jamais trop justement le spectateur avec qui il y a un parti à prendre, il y a de l'empathie à avoir, il y a de la compassion à avoir à ce moment-là. Et c'est pour moi un des plus grands succès du film.
Oui, et donc pour finir sur ça, au niveau de la mise en scène, effectivement, bon, on n'est pas dans du très très grand cinéma, mais on a quand même des belles envolées, que ce soit sur certains plans larges en extérieur, notamment quand on sort du huis clos. Huis clos qui nous étouffe jamais d'ailleurs, qui cherche pas exactement à nous étouffer. J'ai l'impression que la caméra bouge suffisamment, en tout cas dans les champs contre champs notamment, pour ne pas avoir cette sensation un peu d'effroi. Les personnages, moi je les trouve, je trouve, bon, tout le monde l'a dit, mais Isidora absolument formidable. Tous les personnages qui viennent comme ça en contrepoint par rapport à elle et où elle développe tous avec chacun une relation, je trouve que c'est quelque chose de très beau également dans le film. Voilà, il y a un côté de il dépeint une certaine réalité, en tout cas des rapports familiaux, c'est-à-dire la fille qui cherche à soutirer de l'argent à sa mère parce qu'elle n'a pas forcément réussi aussi bien et qui en veut également à sa mère pour un manque d'affection, d'amour inventé ou non. Et je trouve que dans la chute il y a quelque chose de très beau également, parce que au moment où on se dit ça va tomber dans le mélo, etc., il y a toujours une sorte de touche d'humour grinçant pour un peu renverser la situation et pour montrer qu'au final c'est ça qui prévaut sur le film. Et c'est pour ça que je vois moins comme un drame social que comme une comédie sociale, certes très théâtrale, et sans qu'on ait jamais l'impression de tomber dans le théâtre filmé, parce que les dialogues sont suffisamment bien écrits, suffisamment grinçants pour que le tout fonctionne. Voilà, donc c'est fini pour Les Vieux Chats, Bieros Gatos, et on passe tout de suite donc à la bande-annonce d'un autre film qui est Ave.
Ти не си ли много малка да пушиш, бе?
Малка. Мене той ме научи. Докато бях само на 12.
Аз ли те научих?
Не си ли спомниш как се скъсах да кашля?
Не си спомням. Аз тази няма.
Voilà, excusez-nous par avance pour nos auditeurs non bulgarophones, mais effectivement, c'était pour que vous entendiez la belle musique sur fond de road trip d'Ave, donc premier film, si je ne m'abuse, donc de Constantin Bojanov, avec Angela Nedialkova et Ovanes Torosyan. C'est donc une histoire d'amour entre deux adolescents qui se rencontrent à la croisée des chemins. Tu vas me dire tout de suite ce que tu en penses, Maxence?
Oui, alors ce film bulgare, je trouvais que c'est vraiment un petit bijou, donc comme tu l'as dit, qui suit l'itinéraire de deux jeunes entre 17 et 20 ans à peu près, qui partent de chez eux pour plusieurs raisons personnelles et qui se rencontrent sur la route. Donc le film tourne autour de la relation entre ces deux personnages, leur but, ce pourquoi ils font du stop. C'est presque une sorte de road movie bulgare, et oui, ça existe. Et j'aimerais surtout insister sur le côté autobiographique du film, parce que le réalisateur a vraiment imprégné le film au travers des personnages de ce qui lui est véritablement arrivé. Et ce film qui a été fait sans argent, enfin avec 100 000 euros, donc autant vous dire que c'est rien du tout, a été produit grâce à un producteur français. Et pour revenir sur le côté autobiographique, ça donne un véritable réalisme, jusque dans les personnages, jusque dans leur identité. Et parce que par exemple, les personnages dans la fiction ressemblent énormément aux acteurs, le casting a été très bien fait. Et pour parler par exemple de la fille, pour vous montrer comment elle ressemble énormément autant dans la fiction que dans la réalité, eh bien, elle est vraiment lunatique apparemment dans la vraie vie. Elle est autant fugueuse à tel point que le réalisateur a dû lui attacher pendant le tournage un bracelet électronique GPS pour pas qu'elle fugue pendant le tournage. Et donc ce réalisme...
Les droits de l'homme en Bulgarie.
Et donc ce réalisme, eh ben, ça permet de donner une véritable crédibilité à chacune des émotions que le réalisateur fait ressortir. C'est un film très délicat, il y a des émotions donc très sincères qui sonnent tout le temps justes, on n'est jamais dans l'excès. Et alors maintenant, j'aimerais parler de l'esthétisme, parce que si un jour je fais des longs métrages, j'aimerais vraiment avoir le même chef opérateur que le réalisateur. Parce qu'il arrive à alterner une sorte d'ambiance, une sorte de chaleur réconfortante, un petit peu genre une intimité de soir autour du feu, avec une ambiance de ville humide, embuée. Et il y a une véritable fluidité donc dans les plans à travers cet esthétisme. Il faut ensuite souligner l'intelligence de la mise en scène. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, contrairement à la majorité des films, on ne se concentre pas seulement sur un personnage. Là, on se concentre sur les deux personnages, il n'y en a pas un qui vole la vedette à l'autre, il y a une sorte de parallèle entre les doubles points de vue, on n'est pas focalisé seulement sur l'un d'eux. Ensuite, moi, j'aurais fait quelques reproches à ce film, même si je l'ai beaucoup aimé. Le premier reproche, c'est que on a envie un peu de pédaler pour le film, quoi. On a envie de lui dire parfois, écoute, avance Coco, là tu nous as mis une longueur, deux longueurs, trois longueurs, bon, il serait temps d'un petit peu d'avancer. Et surtout, il n'y a pas de scène d'accroche véritable qui nous fait rentrer directement dans le film, quoi. Le film nous fait rentrer par ses émotions, donc on met un peu de temps à rentrer et ça c'est un peu dommage.
Oui, alors moi je suis assez d'accord, je trouve que sur en tout cas l'avis global, c'est-à-dire que je trouve que le film est comme on dit petit bijou, l'expression est un peu galvaudée parce que le film reste assez mineur, mais il y a quelque chose de très beau effectivement dans ce road trip, dans cette rencontre véritable de solitude. Pareil, c'est une expression un peu galvaudée, mais justement l'idée c'est vraiment qu'on a cette rencontre de hasard complète. Et derrière que ces deux itinéraires qui se croisent vont continuer en parallèle. Et c'est un concours de circonstances formidable. Et le destin d'une jeune fille qui s'accroche, c'est pour ça que je suis moins d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on est vraiment en empathie quasiment directe avec cette jeune fille, effectivement un peu lunatique, un peu folle, etc. On a l'impression quand même que le film est vu de son point de vue. L'aspect apparemment très austère, un peu petite racaille qui aurait pu être joué par Vincent Rottier, du jeune acteur, ça a aussi un côté antipathique. C'est-à-dire que c'est effectivement l'histoire d'un jeune homme qui se rend donc dans une ville pour aller à l'enterrement donc de son meilleur ami ou d'un de ses meilleurs amis, et une fille qui est là par hasard et qui se décide à le suivre. Et ce que tu as oublié de mentionner, c'est que c'est effectivement un film dans lequel on rentre, je trouve, pas tant dans l'émotion mais dans l'humour. C'est-à-dire que la fille, au fur et à mesure de ce voyage, va s'inventer des vies avec chacun des personnages qu'elle rencontre. Chacun des personnages, elle va inventer un mensonge. Ce qui fait qu'on peut dire que la fille est complètement mythomane, mais même pas tant que ça, parce que je trouve que le mensonge a une sorte de valeur supérieure dans le film, c'est-à-dire qu'à chaque vie qu'elle s'invente, on se rend compte après qu'elle a une utilité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien fait dans le film, c'est-à-dire que chaque avancée, chaque pas qu'elle fait un peu plus loin dans le délire, dans la folie, jusqu'à quasiment jusqu'au délit suprême, c'est-à-dire oser rire et se moquer de la mort, elle va aller jusqu'au bout là-dedans. Et je trouve que c'est un film, c'est un petit film bulgare qui était à la semaine de la critique au Festival de Cannes l'année dernière, et je trouve que c'est une belle chose qui sort en France, parce que c'est vraiment un film qui joue effectivement avec son petit budget, mais il y en a beaucoup des longs métrages qui sortent à ce budget-là. Mais la question était qu'il y a une vraie virtuosité dans l'image, dans l'utilisation de la musique, qui fait que le film effectivement est assez lent comme tu l'as décrit, mais pour peu qu'on se laisse porter par le rythme, très intéressant. Et je trouve qu'il réussit à apporter la touche à ce qui aurait pu être un road trip auteuriste, pas mal foutu mais un peu chiant, à travers l'humour de ce personnage-là. Et je trouve que c'est vraiment un beau moment, une très belle surprise. Voilà, donc on va passer au film social, le film écossais, donc premier film de Paddy Considine, pardon. Il s'appelle Tyrannosaure et on vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce.
Do you want to come in?
I've met people your whole life. Goody goodies. Be
take a shot at your record. Take a kick. You know what it's like out there, you have no clue.
What are you offering now?
I prayed for you last night. God loves you.
Does he now?
Hey!
He's a beautiful dog.
Came by your shop today.
Voilà, donc c'est Tyrannosaure, donc le premier film de Paddy Considine, donc qui a remporté tout, tous les, comment dire, les prix possibles et inimaginables, en tout cas pour du cinéma européen, au Festival de Sundance. Il faut savoir donc que c'est le premier film de Paddy Considine, mais que ça commence par un court-métrage, le court-métrage qui a eu d'ailleurs en 2010 l'Oscar du meilleur court-métrage, et qui était donc qui était en fait simplement un prélude au film Tyrannosaure, donc qu'on voit ensuite. C'est avec Peter Mulan, l'acteur-réalisateur assez brillant, notamment réalisateur de Neds l'année dernière, qui essaye aussi de continuer dans le cinéma social. C'est quelque chose qui s'apparente en tout cas au départ à Duncan Loach, c'est-à-dire dans une banlieue de Glasgow, un homme seul, alcoolique, qui a des problèmes évidents de communication avec le monde extérieur, rencontre une femme, elle plus socialement intégrée, du moins en apparence. Et donc c'est cette histoire donc de cette rencontre avec un troisième électron autour de ce duo, donc entre le formidable Peter Mulan et la révélation qui est Olivia Colman, qui est le mari donc d'Olivia Colman, qui dont le sadisme n'a d'égard que sa laideur, en tout cas à l'écran. Et on a effectivement dans cette rencontre un film d'une noirceur sans faille, un vrai film social, avec donc ce personnage de Peter Mulan. Ce qui est intéressant à savoir sur le film, en tout cas autour du réalisateur Paddy Considine, qui est quand même un des acteurs les plus déjantés du cinéma, en tout cas dans ces dernières années, qui est quand même un des acteurs fétiches de Simon Wright, donc réalisateur de Hot Fuzz et Shaun of the Dead, et qui joue des rôles comiques, c'est qu'il a été diagnostiqué il y a 2 ans avec le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire qu'il a est atteint d'un autisme très grave qui fait qu'il communique très peu à l'extérieur. Et il a dit, notamment dans une interview à la BBC, pour moi, Joseph, qui est donc le personnage incarné par Peter Mulan, est effectivement un autiste. Je ne l'ai pas vu en l'écrivant, mais je m'en suis rendu compte après, et se sert de l'alcool comme un remède à son autisme. Et il y a quelque chose de fort dans cette rencontre entre deux personnages qui ont du mal à communiquer avec le monde extérieur, entre deux personnages aux valeurs a priori opposées mais qui vont se rejoindre autour d'une histoire. On ne peut pas vraiment appeler ça une histoire d'amour, mais plutôt une histoire sentimentale. La violence est toujours larvée, la violence que ce soit de la société, la violence des voisins, des uns envers les autres, etc. L'agressivité qu'il peut y avoir en permanence. Et c'est un film vraiment intéressant qui a quelques problèmes didactiques, une esthétique qui est presque trop proche de celle des réalisateurs contemporains, en tout cas par exemple de Peter Mulan, pour véritablement avoir une singularité particulière. Une caméra qui parfois bouge un peu trop, mais quelques moments très forts. On pense à une histoire qu'on ne dévoilera pas, avec un chien qui a quand même bouleversé tout le monde. Et une fin qui, par contre, que je trouve un peu bâclée, ou en tout cas un peu facile, qui est une sorte de on a l'impression que le film prend comme ça la sortie qui prend la première sortie de l'autoroute alors qu'il aurait pu aller plus loin, et je trouve que c'est assez dommage dans l'inversement de ce mécanisme. Après, effectivement, il faut dire que c'est très bien incarné, c'est très maîtrisé pour un premier film, et c'est quand même un des films les plus forts. J'aime pas trop l'expression de film coup de poing, mais en tout cas elle peut si on devait la mettre sur un film, en tout cas celui-là serait un des films sur lesquels on pourrait dire un film coup de poing. Voilà, Clément, est-ce qu'on va passer
à... moi j'ai très très peu de choses à rajouter en fait à ta critique, parce que je suis tout à fait d'accord sur tous les points. Effectivement, c'est un film coup de poing. C'est par exemple le genre de film d'émotion qu'on aurait aimé attendre d'un film comme Bullhead, par exemple, cette noirceur, cet isolement du personnage, et au final le fait de pas se complaire dans les explications enfantines ou autre. Là, le passé ressurgit de temps en temps, en fait il ressurgit qu'au départ donc la scène avec son, où on peut le dire carrément, enfin il tue accidentellement, enfin pas vraiment, son chien, en tout cas sous l'emprise de l'alcool. C'est en fait ça témoigne aussi, c'est une résurgence de son passé. Donc non, moi vraiment c'est un très bon film, très bien interprété, avec des scènes, j'ai été marqué je pense par les mêmes scènes que toi, vraiment avec une vraie identité visuelle, mais parce que j'ai pas vu Nez non plus, donc j'ai pas vu ses films précédents, donc pour moi sur le en tout cas dans la manière dont c'était filmé, dans les jeux de lumière et même dans les intérieurs un peu glauques d'appartements, c'était ça me paraissait inédite, mais peut-être que je me trompe effectivement. Et puis cette violence, alors tu disais larvée, je dirais plutôt déchaînée quand même par moments, assez choquante, notamment je pense surtout le mari de la personnage principale qui est absolument immonde. Et effectivement il y a toujours ce côté, malheureusement on se laisse prendre facilement au piège, mais très, très jouissif de voir entre guillemets les méchants, que soient les véritables méchants ou qu'ils soient personnifiés, se faire casser la gueule quoi.
Oui, sur la violence larvée, effectivement, il y a des moments, ce qui est assez beau dans le film, je trouve que la violence est contenue tout au long du film, explose, mais par pic, c'est-à-dire qu'il ne s'amuse pas à faire du film
un truc
ultra violent tout du long. C'est ce que je voulais dire par larvée, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est contenue quand même dans une partie du film.
Oui, mais on s'attend à ce qu'à un moment, on sait que ça va pas pouvoir
durer. On s'attend à ce que ça va et que ça explose, et ça explose pas forcément au moment d'ailleurs où on l'attend, ou en tout cas pas exactement au moment où on l'attend. L'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est sur notre relation au personnage de Joseph, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage. Paddy Considine ne cherche pas à aller dans la facilité et à ce qu'on ait une empathie directe pour le personnage de Joseph. C'est une empathie qui se construit, je trouve, au fur et à mesure du film. C'est un attachement qu'on construit, mais il essaye jamais de nous le rendre sympathique. Et c'est quelque chose de très fort parce que c'est un personnage qui se déteste profondément. C'est-à-dire que c'est un personnage qui se déteste beaucoup plus que nous on le déteste a priori quand on le voit. Et c'est un personnage qui voilà s'isole aussi parce qu'il pense qu'il est une nuisance pour la société. Et ça, c'est des personnages que je trouve toujours intéressants dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est un personnage qui essaie de s'auto-censurer, de se mettre à l'écart, en marge, parce que il est potentiellement dangereux. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. On va tout de suite passer à l'avis de Maxence.
Oui, vous avez beaucoup parlé de la violence, mais vous avez tout à fait raison, parce que finalement c'est un film qui repose sur une chose, c'est la brutalité quoi. C'est un film sur la violence. Mais donc c'est un film coup de poing, mais est-ce que c'est pas trop un film trop coup de poing? C'est-à-dire que cette violence, elle est tout le temps soulignée au marqueur, c'est très cru, sans retenue. Si le réalisateur a envie de massacrer un chien, on massacre un chien. On dirait qu'il a eu envie, qu'il a décidé à l'avance de quand on allait rire, quand on allait pleurer.
Quand on allait rire, pas trop.
Non, j'ai pas trop rigolé, non.
Mais ni pleurer d'ailleurs. Moi je suis plutôt resté sous le choc à certains moments, estomaqué.
C'est
un vrai malaise.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est plus du dégoût, mais du dégoût à chaque fois qui est, je trouve, trop calculé. J'ai l'impression que cette violence, on nous la jette à la figure, et tu as parlé d'une violence qui arrive par une sorte de pulsion au fur et à mesure du film. À chaque fois, on se reçoit une grande baffe, quoi. Et ça, c'est assez gênant, ça m'a mis mal à l'aise. Et à force de trop exacerber ce côté-là, je trouve qu'on perd en crédibilité, à force de trop montrer les choses. Et le film, un petit peu flou de ce côté-là, ça m'a pas permis de rentrer plus que ça à l'intérieur du... Enfin...
Je suis pas d'accord, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le film coup de poing, la Kim Chapiron, genre Dog Pound ou Shaitan, où les mecs se tapent sur la gueule toute la journée et vraiment la violence doit exploser, doit être déchaînée, doit partir dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle te désintéresse complètement, elle ne te fasse plus rien. Et il y a effectivement ce côté très... Je suis pas en train de dire que Tyrannosaure est un chef-d'œuvre, je dis juste que dans la construction, il y a quelque chose de vraiment intéressant et je trouve de très maîtrisé, de très fort, c'est-à-dire que on dirait qu'elle dort pendant une partie du film et elle va ressurgir comme ça. Et le fait qu'on se prenne un coup de poing quand elle ressurgit, c'est tout à fait normal et ça montre que le film est réussi. Je pensais pas justement que ça veut trop en mettre. C'est mon humble avis. Chloé, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur le film ?
Alors, moi je serais peut-être pas tout à fait de ton avis pour ta dernière observation, Maxence, dans la mesure où je pense que ce qu'il y a de très particulier, et vous l'avez dit Clément et Charles, à cette violence, elle tient aussi au fait que ce film se passe à Glasgow et que la violence est diffuse et omniprésente dans cette ville et que je trouve que c'est en cela que ce film est un portrait extrêmement vif et véritable et vrai de cette ville, de son désœuvrement et de sa brutalité. Parce que d'un côté, on a une ultra-violence qui est vraiment omniprésente, qui a pu être caricaturée dans une jeunesse oisive, par exemple dans Trainspotting, mais où en gros, il y a toujours cette violence alcoolisée, intoxiquée, qui est face en fait à cette sorte de solidarité et de communautarisme qui peut se créer et qui agit vraiment en contrepoint à cette noirceur. Parce que très honnêtement, je pense que ce drame, il tient énormément à la ville de Glasgow. C'est pas un drame qu'on aurait pu construire à Paris, c'est pas un drame qu'on aurait pu construire dans la plupart des autres villes européennes. C'est vraiment un état et une sorte de limbe noir et absolument désespéré qui est très très propre au Glaswegian. Mais outre ça, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est la prise de l'espace en fait par les personnages qui sont toujours filmés avec une lumière assez crue et extrêmement réaliste. Mais je veux dire, on n'insiste jamais trop sur les gros plans. On n'approche jamais trop des personnages. On les laisse vraiment, en fait, prendre leur espace, leurs accès de violence. Et c'est ce que j'ai trouvé assez fort. J'ai trouvé ça aussi assez bienvenu que le film ne sombre pas dans le voyeurisme. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont esquissées, il y en a certaines qui sont dévoilées tout à la fin du film, mais on n'est jamais dans cette complaisance voyeuriste et un peu satisfaite en fait du sadisme d'autrui, et c'est ce que j'ai trouvé aussi palpitant. Par contre, quelque chose qui n'a pas encore été évoqué, c'était l'intervention de la foi dans ce film, auquel je ne m'attendais absolument pas, tant il peut être parfois désuet et souvent tabou en fait dans ce genre de film, parce que on s'attend toujours à une sorte de dichotomie, oh l'extraviolent, oh la bonne samaritaine, et en général les problèmes de foi sont abordés de façon très maladroite, caricaturale, et c'est vrai qu'au début cette femme battue, on s'attend à avoir une sorte de sœur sourire, et au final j'ai beaucoup aimé, et c'est peut-être malsain aussi, le fait qu'elle se laisse prendre et happée par cette noirceur, et le fait qu'au final, que ce soit la foi, ou que ce soit pour le personnage de Joseph, la foi qu'il a en l'humain, qui est le petit Samuel, le petit garçon de 9 ans, qu'au final, tout ça n'échappe pas vraiment au grand tourbillon qui est, je le répète encore une ultime fois, très propre à cette localisation. Et j'ai trouvé que moi, pour le coup, le rapport à la religion était extrêmement bien amorcé, d'une part parce qu'il relie ces personnages tout en les clivant, il les relie dans l'acte de prier, dans l'espoir d'une salvation, mais il les clive dans la mesure où l'un se déteste trop pour y croire et l'autre finit par s'autodétruire en perdant de vue sa propre foi. Après, pour revenir juste sur la fin, je l'ai pas trouvé tellement bâclé, mais je l'ai trouvé juste dans la mesure où, même si elle est rapide et abrupte, je voyais pas tellement quelle autre fin il y aurait pu y avoir pour rester assez fidèle au film, pour ne pas sombrer justement dans ce retour de bâton où il y a eu la noirceur, mais l'humain est toujours au centre de tout. Là, on voit vraiment que l'humain, à partir du moment où lui-même reste aussi fragile et aussi droit qu'il le peut, finit par payer pour ses actes, et ça va être ce qui va arriver à cette jeune femme, et où l'humain lui aussi, à partir du moment où il apprend à s'aimer un peu et à se préserver, va devoir fermer les yeux sur les plus grands drames qui peuvent se passer dans la maison d'à côté. Et donc j'ai trouvé que le fait que tout n'aille pas bien à la fin, c'était probablement le meilleur aboutissement, le plus juste et le plus sincère, au moins pour ce film.
Voilà, donc on va tout de suite passer à vos coups de cœur. On va commencer peut-être par le coup de cœur de Quentin.
Donc moi j'aimerais parler d'un film qui est sorti la semaine dernière, donc c'est La Martinique au Martiniquais. C'est un documentaire de Camille Maudouèche sur l'affaire de l'Ojam à Noël entre 1962 et 1963, donc voilà, c'est très précis. Et donc c'est sur un élan indépendantiste qu'il y a eu en Martinique à cette période-là, et donc elle revient sur ces événements en interrogeant le contexte historique de l'époque et les principaux acteurs donc qui ont participé et qui donc pour la majorité d'entre eux sont toujours vivants et un peu plus vieux. Et donc c'est un documentaire qui, à la fois, à mon avis, qui peut être très intéressant si on est passionné par le sujet, et pour les historiens, enfin c'est vraiment très très pointu, très détaillé, et pour le coup elle donne vraiment la parole exclusivement à ceux qui ont participé. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet que personne ne connaît, puisque l'affaire de l'Ojam en 1962 en Martinique et qui s'est déroulée pendant 3 jours, c'est peut-être un petit peu précis pour faire un documentaire ou en tout cas qui parle vraiment, enfin qui veut s'adresser à plus qu'une minorité de personnes. Et donc, c'est peut-être un sujet qui n'est pas vraiment assez large, qui est sûrement abordé de façon très complète et très aboutie, mais malheureusement qui, par son thème même, ne parle pas forcément aux gens, puisque personne n'a en fait les éléments clés en main pour pouvoir s'y rattacher, et ces éléments ne nous sont quand même pas vraiment offerts avant. Ça veut dire qu'on débarque dans un contexte qui est juste expliqué au moment même où les éléments se déroulent, mais on n'a pas suffisamment d'indices et d'éléments qui nous permettent de vraiment suivre jusqu'au bout ce documentaire qui, semble-t-il, est assez long.
Voilà, moi je vais rebondir en parlant d'un film qui est sorti il y a 2 semaines qui s'appelle The Plague Dogs de Martin Rosen, qui est donc un film d'animation adapté d'un bouquin au départ qui s'appelait The Plague Dogs, également par Richard Adams, qui est juste un des best-sellers dans les livres de jeunesse en Angleterre. Et c'est un film qui était inédit sur nos écrans jusque-là, puisqu'il est sorti en 1982, qu'il a fait des millions d'entrées un peu partout, sauf en France, et qu'il a un statut de film culte. C'est un dessin animé assez intéressant, donc par le réalisateur aussi de Watership Down, qui en fait prend le parti de reprendre l'intégralité des codes du cinéma de Disney. C'est-à-dire des animaux qui parlent, des animaux qui ont des comportements humains, mais qui se décident de les détourner pour en faire un film d'animation quasiment noir, en tout cas relativement déconseillé aux petits-enfants, sans aucune mièvrerie, qui réussit. Donc c'est l'histoire de deux chiens donc, qui s'évadent d'un laboratoire, qui s'évadent d'ailleurs malades et contaminés d'un laboratoire, dont la fin est inéluctable, et qui vont devoir survivre et se nourrir dans un monde qui leur est complètement hostile, et où l'absurdité des comportements va en amener en tout cas malencontreusement à tuer un homme qu'il recherche par un concours de circonstances assez effroyable. Et il y a quelque chose de très beau dans ce, on pourrait dire aussi que c'est presque un road trip en pleine campagne, où les animaux sont à la fois donc humanisés au possible, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils ont des émotions, mais à la fois relégués à leur aspect d'animal, contrairement à ce que fait Disney, c'est-à-dire que clairement il faut qu'ils bouffent pour qu'ils puissent survivre. Et c'est un peu l'histoire du film, et c'est un très beau film, et qui dans un moment onirique, notamment dans sa fin, et touche quasiment au sublime. Et donc c'était un très très beau film d'animation. On va passer tout de suite au coup de cœur de Maxence.
Eh bien oui, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps American Beauty de Sam Mendes, qui est un peu plus connu, certes, mais c'est un film bien américain, mais au sens où la mise en scène est académiquement américaine, il n'y a pas de véritable prouesse dans les plans ou quoi que ce soit, mais c'est un film très fin, c'est l'un des premiers films, si je ne me trompe pas, le premier film de Sam Mendes. C'était un peu une commande, et surtout c'est porté par un Kevin Spacey qui est juste incroyable, qui a d'ailleurs reçu l'Oscar pour le film. Et c'est un film qui nous fait énormément rire, un humour très fin, très subtil, au travers de l'histoire d'un type totalement, qui devient totalement déjanté, puisqu'il découvre que sa vie est totalement nulle, alors il bouleverse tout du jour au lendemain. Et par exemple, il quitte son boulot avec ses primes et se barre, reste chez lui, rentre en conflit avec sa femme, se fait embaucher chez McDo. C'est très amusant, je vous invite à aller le voir. Et j'aimerais juste ajouter, alors je ne sais pas si ça va devenir une habitude, mais je vais parler d'un clip encore. Et je vous invite à aller voir l'un des clips de Michel Gondry, qui est véritablement l'un des rois du clip aujourd'hui. Michel Gondry, réalisateur français qui a par exemple réalisé La Science des Rêves ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Dont le We and I sera présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année.
Tout à fait, et ça faudra absolument pas le rater, je pense. Et donc le clip dont je voulais vous parler, c'était un clip qu'il a fait pour Daft Punk, qui s'appelle Around the World. Alors peut-être que vous l'avez vu, ou sinon je vous invite à le revoir tout simplement, parce que c'est vraiment une véritable prouesse technique et d'une imagination incroyable.
Voilà, on va tout de suite passer au coup de cœur de Clément.
Bah, c'est bien, je me rends compte du décalage générationnel qui peut exister. Je me sens vachement vieux d'un coup quand on cite le clip des Daft Punk. Moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu effectivement récemment, qui je pense est toujours à l'affiche au cinéma. C'était Weekend, en fait, donc de Andrew High. Une très bonne un très bon film romantique. Paradoxalement, je m'attendais au film très cliché, gay, film que qu'aime têtu et compagnie. Donc vraiment le truc chiant, quoi. Enfin, il y en a à peu près un toutes les deux semaines. Vraiment, je m'attendais à un truc assez mauvais. Et c'est une très très bonne surprise. C'est vraiment une super histoire qui est vraiment bien racontée. C'est très émouvant comme film, avec notamment une scène de faux coming out assez improbable et vraiment bien faite. Donc c'est juste l'histoire de deux mecs qui se rencontrent dans une boîte et qui décident, pour entre guillemets un peu changer les choses, de passer le week-end ensemble plutôt que d'avoir simplement passé la nuit ensemble, dont ils ne se souviennent d'ailleurs plus tellement ils étaient alcoolisés, et qui se racontent progressivement leurs histoires, qui se découvrent l'un l'autre, sachant que l'autre doit partir effectivement deux jours plus tard pour un an ou deux aux États-Unis. Vraiment, ça casse pas, enfin c'est pas le film du siècle, loin de là, mais moi qui suis vraiment pas amateur du genre en plus, j'ai vraiment trouvé que c'était un très beau film, très touchant, donc vraiment une bonne surprise, et je crois qu'il est encore en salle pour très peu de temps.
Voilà, on va passer donc au final au coup de cœur de Chloé.
Oui, alors c'est la sortie en DVD dans la collection Les Introuvables du film Stormy Weather, avec entre autres Cab Calloway et Lena Horne. C'est une comédie musicale, donc, dans laquelle on peut entendre le superbe Stormy Weather interprété donc, dans ce film par Lena Horne. C'est vraiment une comédie musicale on en a rarement fait, dans la mesure où il y a un vrai punch, où il y a un vrai message aussi social, puisque c'est une comédie musicale qui est composée à peu près 94% d'acteurs noirs américains. Et donc, c'est l'émergence et la montée dans le milieu du musical, d'artistes divers, qu'ils soient danseurs de claquettes, chanteurs, danseurs. Et j'ai trouvé ce film d'une énergie absolument sublime. Là-dedans, il y a du vrai rêve, il y a un humour détonnant. Je pense notamment à la scène d'interprétation du tube, tant il a été repris et réinterprété, Stormy Weather, où là on a une scène de danse et une mise en scène absolument incroyable, une mise en abîme comme on ne pensait pas en voir, surtout pour un film de cette époque. Donc voilà, ce film est un vrai voyage, une vraie performance aussi, puisqu'on a les deux frères, dont le nom m'échappe là, mais qui étaient les rois du tap dance à l'époque et qui mettent absolument minable des films comme Chantons sous la pluie, que j'aime par ailleurs. Mais en gros, voilà, il y a une vraie performance presque sportive dans leur cas, artistique, une réalisation sublime et très rythmée par d'excellentes scènes de danse et une photo vraiment admirable. Donc je vous conseille d'essayer de le trouver dans la collection Les Introuvables à la FNAC. Parce que honnêtement...
C'est édité par Wellside par ailleurs.
D'accord. Très bien. Moi, je ne connaissais que cette collection-là. Mais c'est un film qui vaut vraiment le détour. Et d'ailleurs, cette collection, en l'occurrence, est extrêmement riche de ce film, de ces petits bijoux. Terme ô combien galvaudé.
Voilà, donc c'était l'émission galvaudée de la semaine. On vous souhaite une bonne journée sur les ondes des respects. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.